RMC Running.
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec notre Kenyan blanc, le maître Yodu, Johan Durand, toujours en Afrique pour se préparer. Salut Yodu.
Salut à tous, salut Benoît, ça va?
Ça va et toi alors?
Ouais, impeccable, écoute, ça borne, ça a 170 bornes la semaine dernière, ouais. Le bronzage qui se peaufine, tout va bien.
Non, non, t'es tout rouge, dis la vérité, il n'y a pas de bronzage, il n'y a que des coups de soleil pour le moment.
J'ai pelé comme un serpent, j'ai perdu ma peau.
Exactement. Écoute, on est ravis de te suivre, on suit ça sur Strava, allez voir dans le club RMC Running, d'ailleurs souvent Johan poste ses activités. On vous attend également sur notre compte Instagram et continuez de nous suivre si vous préparez le marathon de Paris. Les hors-séries cartonnent sur la prépa Marathon de Paris de la team RMC Running. Donc n'hésitez pas, vous allez sur YouTube, vous tapez RMC Running Marathon de Paris, vous tombez dessus. Et comme ça, vous avez tous les précieux conseils. C'est dispo tous les mardis avec toute notre équipe. Écoute, on va régaler nos fans de trail aujourd'hui, Johan, parce qu'on va recevoir un sacré personnage. Le duc de Savoie sera parmi nous. Hugo Ferrari, trailer, speaker, créateur de contenu, un phénomène. On va raconter son histoire, parler de sa vision du trail, son amour pour l'UTMB, puis ses différentes activités, puis il va nous distiller comme ça quelques précieux conseils d'entraînement. C'est un vrai spécialiste, il a l'habitude de le faire sur son blog, donc on en parlera avec lui. Et puis en fin d'épisode, on aura un bon plan matos, les shorts ultimes de la marque Sensus. C'est la marque qu'on aime beaucoup associée à RMC Running. Notre ami Théo Lapouche sera avec nous, le fondateur de la marque. Il va vous présenter tout ça. Allez, enfilez les baskets, attachez vos lacets, préparez les victuailles. On accueille le Duc tout de suite.
La Savoie, c'est avant tout une grande famille.
Moi, c'est Hugo Ferrari, je suis ultra trailer, je suis speaker et je suis aussi organisateur de courses.
L'une des plus prestigieuses maisons d'Europe qui a accumulé en environ 1000 ans de règne un patrimoine exceptionnel.
Le duc de Savoie perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau.
Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mais je suis pas là pour vous présenter la fondue savoyarde. Je suis là pour vous présenter la maison de Savoie. La maison de Savoie, c'est la dynastie qui a régné sur la région pendant plusieurs siècles.
Il dut innover, proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire, quelque peu incisive, mais toujours issue d'un vécu.
Comme quand tu fais du sport avec ton gamin, tu sais, tu mets une petite tape dans le dos, comme ça, tu fais « Ah putain, c'est bien Kevin, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant, hein. C'est bien Kevin, tu vas voir maman, elle va te faire un chocolat chaud. »
Le duc traite, dans son infinie bonté, d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste.
C'est ça la table qu'il lui met dans le dos, regardez!
Amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché.
Il y avait 10 minutes en bas, et là il le double, on dirait il double son fils.
Puisses-tu, ici, passer un bon moment, assis en tailleur au coin du feu, ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures, afin de savourer pleinement la divine parole.
Même pas, il a essayé de suivre, parce que l'allure est tellement ignoble, infâme, on est plus sur une allure humaine, là, c'est n'importe quoi.
Chevalier, grand maître des cérémonies et grand duc de... À propos, vous voulez être grand duc de quoi?
Ma douce Savoie, toi qui m'as vu naître. Ma douce Savoie, je t'aime de tout mon être.
Hugo Ferrari, en direct avec nous depuis la Savoie. Salut Hugo, alors, comment ça va?
Ouais, exceptionnel, j'ai jamais eu ce genre de jingle. J'ai cru reconnaître même Stéphane Bern au début.
Eh bien
Pensé être associé à lui, c'est royal.
Et ça colle parfaitement. On félicite Kylian Verhoeven pour cette magnifique production sonore. Qui te met
très
bien en valeur.
Boulot.
Ah bah oui, beau boulot, et en plus ça reflète bien le personnage que tu es, donc on est ravis de t'accueillir. Pour ne rien vous cacher, on a quelques petits soucis de connexion avec Yohan Durand qui va arriver dans un instant. Il est en direct du Kenya, vous savez ce que c'est, le réseau c'est pas toujours ça. Comment ça va Hugo alors? Est-ce que t'es en forme? Est-ce que t'es en canne comme on dit?
Alors, je suis très en forme, je suis ravi d'apprendre que Yohan a fait 170 km la semaine dernière, puisque j'en ai fait deux de plus, donc voilà, je... goûte à un peu de repos aujourd'hui avec le sourire aux lèvres.
Le duc se repose parfois, alors c'est fou ça.
Ah oui.
Oui, il y a du repos, ça arrive. Question qu'on pose à tous nos invités quand on démarre le podcast RMC Running, Hugo. Pourquoi tu cours tout simplement? Pourquoi tu t'es mis à la course à pied, au trail notamment?
Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment commencé par de la course à pied. C'était plutôt de la randonnée quand même au début. C'est parce que je venais du vélo dans un but purement de compétition. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. Et quand j'en ai eu marre, je me suis dit, ben attends, tout l'école que t'as passé, à chaque fois, il y avait des départs de randonnée. Et du coup, je suis parti faire les sommets que je connaissais très, très peu, hein, même autour de chez moi. Et je me suis mis à faire ça, et au fur et à mesure de ma pratique, après, je me suis mis de plus en plus à courir. Mais au début, c'était vraiment pour aller voir un petit peu plus haut, ailleurs, ce qu'il y avait.
Ce qui est beau, c'est que tu as le terrain de jeu idéal chez toi, quoi. Toi, t'es baigné dedans, donc c'est limite naturellement que t'es allé vers ce sport, en fait.
Oui, bah c'est vrai qu'en Savoie, alors encore plus depuis l'épisode Covid, hein, y a de plus en plus de gens qui viennent faire du sport outdoor.
Ah ouais.
Mais niveau chemin, t'as tout ce qu'il faut. Même quand je faisais du VTT, c'était assez sympa. Donc ouais, ici, si t'aimes le sport, tu tombes dedans inévitablement.
Ouais, c'est sûr, c'est le terrain de jeu idéal. Tiens, Hugo, reste là, on attaque tout de suite ton CV de coureur.
RMC, le CV de coureur.
T'as quel âge aujourd'hui ?
J'ai 32, je vais bientôt avoir 33.
Ah, c'est quand ? Bah, dis-nous, comme ça on te souhaite à ton anniversaire.
C'est... Ouais, c'est le 21 avril.
Ah oui, ça vient, d'accord. Ok, bah écoute, on y pensera.
C'est un lundi.
Ok, t'as déjà regardé. Tu cours depuis quand ? Depuis que t'as quel âge ?
Je pense que je cours depuis très très longtemps, parce que quand j'étais petit, je faisais les crosses. Et même avant, quand j'étais à l'école primaire, il y avait une course en septembre, la Ronde des Vendanges, on faisait ça.
Ouais.
J'ai fait le 1, le 2, le 3 km. Donc je cours depuis toujours. Après, je courais qu'à l'automne, hein. C'était uniquement pour les crosses du collège.
Après, le reste du temps,
je m'y suis remis en 2014. Voilà.
Voilà, tu t'y es mis sérieusement depuis 10 ans, en gros. Ouais, c'est ça.
Oui, voilà, ouais. Alors sérieusement, on pourra en débattre. Ouais, depuis 10 ans, je fais du trail en compétition.
Tu cours combien de fois par semaine en moyenne sur une année ?
Bah, c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre parce que les semaines changent quand même beaucoup. Après, de plus en plus, j'essaie d'être régulier, ce que j'étais pas du tout avant 2022. Et je cours, je pense, 6 jours sur 7. Hein.
Voilà.
À moins qu'il y ait des semaines vraiment repos, relâche. Mais j'essaye maintenant même de faire des mini-footings.
Tu parles en kilomètres, toi, ou en dénivelé ? Parce que chez les trailers, on parle beaucoup en heures d'entraînement et en dénivelé. Comment tu vois ça, toi ?
Ben, j'essaye de regarder les deux, parce que finalement, quand tu fais une grosse variation de kilomètres, tu peux avoir des problèmes. Et quand tu fais une grosse variation de dénivelé, tu peux aussi avoir des problèmes un petit peu tendon rotulien, peut-être aussi le TFL. Donc, j'essaie de regarder les deux, vraiment pas faire des trop grosses variations sur ces deux paramètres.
Ouais. Est-ce que tu as des records perso dont tu es fier ?
J'avais fait 5 années de suite le top 30 à l'UTMB, mais comme j'ai abandonné l'an dernier, ça foire un peu le truc. Ouais. Donc, j'en ai pas trop.
Et ton meilleur chrono sur l'UTMB, tu peux nous le rappeler ?
Ouais, alors le parcours, il évolue un peu chaque année, donc on peut dire plus ou moins 10 minutes, suivant, voilà, des fois, il y a une petite coupe, un truc, un éboulement. 2023, quand je termine, 23h08, c'était mon meilleur temps.
Ouais, c'est hyper solide. Top 30 de l'UTMB, imaginez bien, on aura le temps d'en reparler. Quelle est la dernière course que t'as disputée, Hugo, alors ?
C'était une corrida en Suisse, à la Chaux-de-Fonds, mi-décembre.
Et la prochaine, c'est Chianti ?
Non, je fais un petit trail de préparation du côté des Cévennes. Le Cévennes Trail, donc là on est sur une organisation vraiment très, très familiale, très sympa.
Est-ce que tu as une séance d'entraînement préférée ?
Non, pas vraiment. Après, mon entraîneur, il est très connu pour nous faire des allers-retours en côte, des navettes.
Ouais.
C'est vrai que quand il a la main lourde là-dessus, ça me fait toujours beaucoup rigoler d'accumuler énormément de dénivelé en très peu de temps. Mais sinon, non.
Et pas de séance détestée ? Des moments, des aspects de l'entraînement que tu n'aimes pas du tout ?
Ouais, si, c'est quand il nous met des trucs un peu longs, des fractions d'efforts, où il faut tenir le seuil le plus longtemps possible, puis après essayer de faire du travail sur fatigue, quand t'es pendant une heure et quart à faire la même chose, là c'est un peu chiant. C'est pour ça que je respecte énormément les gens qui font du marathon. J'en ai fait une fois à l'entraînement pour essayer, c'est pas facile.
Attaquons donc ton histoire, Hugo, le duc de Savoie avec nous dans RMC Running cette semaine. T'en as parlé brièvement, mais raconte-nous ton passé de vététiste, parce que c'était ton sport de base, t'étais un passionné de VTT, jusqu'à un très bon niveau d'ailleurs, Hugo. Hein.
Bah, je faisais ça avec deux copains, puis en dessous de chez moi, vraiment à 1 km, il y avait un club de VTT. À 14 ans, mes parents ils m'ont dit « qu'est-ce que tu veux, un scooter ou un VTT de compétition ?» J'ai beaucoup hésité, j'ai pris le VTT de compétition, et après bah, j'étais foutu, hein, il fallait que je fasse les Coupes de France et tout. Quand j'avais 16 ans en cadet, j'étais à peu près dans le top 10 en Coupe de France. Je crois que j'avais fini 12e du classement général.
Ouais.
Derrière des Jordan Sarrou, des gens qui sont passés après à un autre niveau, quoi. Et puis, ça s'est perdu pendant mes études. Ça s'est perdu, le VTT. Je suis passé à la route, j'en avais un peu marre. C'est très dur, le VTT, parce que tu casses beaucoup de matériel.
Et oui.
Donc, tu as énormément de déceptions. Quand tu casses le matériel sur la première manche de Coupe de France, bah derrière, tu es foutu pour l'année, quoi, en gros, avec les grilles de départ, comme en cyclocross. Du coup, j'étais passé à la route. Et puis, la route, un milieu un peu quand même moins sympathique, moins rigolo. Donc pareil, après, c'est pendant les études d'ingénieur, là, j'ai été perdu et je suis passé du coup après à la course à pied de nature tout seul.
Bah oui, non, mais après, t'as raison, c'est dès qu'on rentre dans la vie active et puis qu'on poursuit des études, notamment des études d'ingénieur, bah, ça prend du temps et la course à pied, c'est un sport plus facile à pratiquer. C'est ça qui s'est passé pour toi, j'ai l'impression, en fait.
Ouais, c'est ça, parce qu'en courant, si tu veux aller à l'efficace, tu peux te faire une séance en 40-50 minutes.
Ouais, exactement.
En vélo, même sortir une heure et demie, c'est pas top top.
Parlons de ces études d'ingénieur et de ton début dans le monde professionnel, parce que j'ai lu que tu avais été concepteur de brouilleurs pour téléphone en prison. C'est énorme, cette histoire. C'est fou,
ah d'ailleurs. Oui, mais tu as lu ça où alors?
Voilà, écoute, j'ai fait mes recherches. Mais c'est vrai. Je suis tombé là-dessus, je me suis dit, ça me fait marrer, c'est une ligne de plus au CV du personnage. Putain. C'est assez marrant, ça, quand même, de bosser là-dessus.
Oui, oui, bah, j'étais ingénieur en radiofréquence et l'entreprise que j'ai rejoint à côté de Grenoble, elle avait un projet, c'était ça. Donc moi, j'étais dessus. Ouais. En gros, je simplifiais des cartes électroniques pour que le brouilleur soit toujours plus petit, toujours plus performant, etc. etc. quoi. Toujours comme ça, hein, dans le milieu d'électronique.
C'est vrai, ouais, écoute, ça, c'est assez...
Je suis réellement allé en prison, du coup.
Ah, du coup, voilà, je suis allé tester moi-même, j'ai fait 15 jours, et j'ai vu comment ça se passait. Quoi.
Oui, 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 c'est vrai, j'ai fait qu'une journée, mais c'était assez impressionnant. Ouais.
Ah, c'est vrai, ouais, c'est sûr, c'est un univers qu'on connaît assez peu, finalement, qui est fascinant, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit autant de reportages là-dessus.
Oui, oui, puis j'ai réellement rencontré les détenus, je me suis promené au milieu d'eux, ouais. c'était impressionnant. Ouais.
Tu leur as donné des combines pour passer outre des brouilleurs ou pas, non?
Non, bah justement, ils avaient trouvé tout seul, donc on a dépanné les 2-3 brouilleurs un peu en panne, et puis bon, après, ils ont vu que j'étais pas le mec sympa, du coup, il fallait partir.
Bon, donc on l'a dit, la passion de la course à pied qui naît, la passion du trail, la course en nature. Parlons aussi de la création de ce personnage, le Duc de Savoie, parce que c'est comme ça qu'on te connaît, c'est comme ça que tu te revendiques sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de second degré, c'est ce que nous, on adore chez RMC Running.
Oui.
Ça te vient d'où? Comment tu as eu cette idée? J'ai vu qu'il y avait un rapport avec François Denne, notamment.
Ouais, alors il y est pour rien, hein, bien sûr.
Non, bien sûr.
En 2019, j'avais fait une course dans le Beaujolais. Et en fait, à l'époque, il avait encore ses vignes là-bas. Et bon, évidemment, lui n'avait pas couru, c'était une toute petite course, le Beaujolais Village Tour, un truc comme ça. Mmh. Et j'avais gagné, du coup j'ai dit, bah tiens, je suis allé gagner sur les terres de François Denne, du coup je lui ai pris son titre, j'ai annexé ses terres. Puis vu que j'aimais bien la Savoie, j'ai dit, tiens, bah, le Duc de Savoie est parti. Je faisais des vidéos YouTube à l'époque, vraiment très, très idiotes. Et finalement, le fait d'avoir inventé ce personnage, mais en revenant hein, dans la voiture, ça permettait que les gens comprennent bien quand ils arrivent sur mes vidéos YouTube que c'est de la blague.
Voilà, bien sûr.
Parce que ben, y en a qui comprenaient pas avant. Alors il en reste toujours un ou deux, mais ils sont moins nombreux quand même, ça va.
Ouais, c'est... quand tu comprends pas le second degré, c'est quoi? Faut y aller là quand même, parce que quand tu regardes les vidéos en longueur et la multiplicité,
ouais,
notamment
ouais,
quand
ouais.
tu écoutes les
toujours.
Podcasts, c'est... Alors, t'as une vraie spécificité dans les podcasts qui est assez dingue et assez marrante, c'est la digression. Souvent, tu pars sur un sujet, après on s'écarte pendant un quart d'heure, puis on revient, voilà, ça c'est la magie du podcast. Mais c'est la magie de tous ces contenus aussi, toi tu te
oui,
régales avec
ces
nouveaux
formats. Oui, d'ailleurs, des fois, je gourre complètement.
Ouais, c'est ça. J'ai écouté le dernier, moi. Tu commences à nous parler d'un truc, puis après tu te dis, bon, alors voilà, comment ça se passe l'imposition sur les casquettes que je mets en vente? Et puis là, tu nous fais 25 minutes sur le circuit des casquettes et tout. C'est assez drôle. Mais bon, je pense que c'est pour ça aussi.
Ouais,
que,
parce que je découvre marche. En même temps, en fait.
Ouais, non, c'est sûr. C'est assez ouf. On l'a dit, tu es coureur, tu es créateur de contenu. Tu es aussi speaker. Ça reste ton métier de base, d'ailleurs. Comment t'es tombé là-dedans?
Oui.
Est-ce que c'est un métier qui te passionne toujours autant? Est-ce que la notoriété aidant, tu speaks sur de plus grosses courses? Comment ça se passe pour toi, cet aspect-là de ton travail?
Ouais, bah, j'avais commencé en 2017 parce que l'entreprise dans laquelle je travaillais, c'était une PME, quoi, une petite entreprise. Et bah, ils n'ont pas gardé les CDD, ils ont gardé que les CDI, voilà, parce que ça allait un peu moins bien cette année-là. Donc je me suis retrouvé sur le marché du travail un peu sans rien.
Ouais.
Et pendant que je faisais des entretiens d'embauche, mais ça ne me plaisait pas ce qu'il y avait à l'époque, je me suis dit qu'il fallait que je sois auto-entrepreneur. Malheureusement, je ne savais rien faire, je n'étais pas artisan. Et à un moment donné, je me suis dit, oui, mais ce que je sais faire, c'est parler. Donc j'ai tout de suite appelé Ludovic Collet, que je connaissais un petit peu, qui est speaker sur les grands événements en trail.
Un ami
d'RMC Running. Et il m'a amené avec lui... Hein ?
Un ami d'RMC Running aussi, qu'on aime beaucoup, Ludo. Ouais.
Ah oui, bien sûr, ouais, il est partout. Hein.
Ouais.
Et il m'a amené avec lui, et la mayonnaise a pris... Et après, j'ai commencé à animer dans l'été 2017. Et puis 2018, j'avais déjà un calendrier assez conséquent, presque rempli. Ouais.
Parce qu'on pourrait se dire...
Mais je ne vais pas trop sur les grosses courses, moi.
Bah justement, c'est ce que j'allais te dire. On pourrait se dire, avec la notoriété, avec tes activités, ton entraînement quand même qui est très poussé, on pourrait se dire bah, peut-être que c'est une activité qui pourrait mettre de côté. Mais tu tiens vraiment à conserver ce rôle de speaker. Tu prends beaucoup de plaisir à le faire, même sur les petites courses.
Ouais, bah c'est sûr. Tu vois, par exemple, je suis un des animateurs de la Maxi Race. C'est deux matins où je me lève à 3h.
Enfin, là, on n'est pas sur la petite course.
De 4h enchaînées. Ouais, et puis à 3h du matin, on te demande d'être vraiment dynamique, quoi. Si le speaker il est en train de bailler au micro, ça le fait pas du tout.
C'est sûr.
Donc, c'est sûr que c'est un frein dans le rôle d'athlète. D'autant plus qu'il n'y a pas d'habitude. C'est-à-dire que tu vas enchaîner deux week-ends durs. T'en auras pas avant un mois, t'auras re un week-end dur. Donc, c'est un peu dur de s'adapter. Mais c'est vrai que les coureurs te le rendent bien, ils apprécient. Puis, il y a le côté rencontre. Voilà, c'est vrai que même si des fois, j'aimerais bien me reposer un peu plus et mettre ça de côté, je retombe dans la marmite à chaque fois. Quoi. J'y retourne quand même.
Ouais, c'est ça. Tu regrettes jamais d'être allé sur une course et d'avoir pris le micro. Quoi. C'est toujours un bonheur.
Oui. Et puis, ouais... Toujours des surprises, en fait, ça se passe jamais pareil. Donc, moi aussi, ça, j'apprécie quand même beaucoup cette adaptation permanente.
On a retrouvé notre champion, Johan Durand, au fin fond du Kenya. T'es bien là, Johan ?
Ouais, normalement, je suis là.
Ah, il est là au téléphone, c'est bon, on l'entend. Bon, évidemment, on est en train de présenter Hugo, notre duc de Savoie, qui nous a raconté comment le surnom du duc est arrivé, son rôle de speaker. Et cet univers qu'on adore, nous, Johan, c'est typiquement le genre de profil qu'on aime mettre en avant dans RMC Running.
Oui, bah, c'est toujours des histoires et des personnages. Tu vois, les personnages qui entraillent, on ne les retrouve pas forcément sur la route.
Ouais.
Les profils comme Hugo, comme Casquette Verte, même... d'autres comme ça, et c'est vrai que c'est sympa parce que c'est rafraîchissant, tu vois, sur cette distance-là, c'est des mecs qui se prennent pas la tête, ils font juste des bornes comme des débiles, parce que je suis sur la fiche de Hugo et je peux te dire que ça me fait mal à la tête de voir tout ce qui s'enquille d'année en année, mais voilà, c'est ça, c'est des profils plutôt sympas et c'est cool et ça garde une certaine fraîcheur par rapport au monde de la route ou au monde de la piste où on est vraiment tout le temps dans une logique de performance et de chrono. Ouais.
Bah évidemment, c'est tout ce qu'on aime nous dans la course à pied. Et puis Johan, il y a cet aspect performance qui est dingue avec Hugo, c'est qu'on va en parler dans un instant, mais l'amour de l'UTMB, quatre top 30 consécutifs, c'est ça Hugo, à l'UTMB ?
5
top 30 consécutifs.
Ah, mais il y en a un, il faut retirer les deux premières dames, alors ça dépend comment tu comptes.
D'accord, tu comptes. Il y a le scratch et puis le par genre, quoi, c'est
voilà.
Ça
ouais.
Bah voilà. Ouais, parce que tu sais, elles sont tellement fortes, les dames, qu'elles me battent. Donc,
Ah bah oui, mais on est impressionné, hein, évidemment. Avant d'entrer dans le détail,
le dernier UTMB, j'avais fait avec Courtenay, elle est forte. Hein.
Ah bah un peu, oui. Un peu forte.
Ah bah...
Ça, c'est sûr. Mais c'est ce qui nous passionne dans le trail et l'ultra trail. Avant justement d'entrer dans le détail de l'UTMB, comment tu te prépares, comment tu anticipes cet événement, parce que ça te tient vraiment à cœur. Il y a un virage à ton honneur à chaque fois dans la course. Quelle est ta vision du trail aujourd'hui, Hugo ? Nous, on a reçu des amis des genoux dans le GIF il y a quelques jours. On en parlait de ça aussi,
ah oui,
l'évolution de la discipline, tout à fait, Robin qui était avec nous. parce que il y a ce côté-là, nature, fraîcheur et puis aventure, et puis il y a aussi le côté professionnalisation qui gagne du terrain. Est-ce que pour toi c'est une bonne chose pour le trail? Comment tu vis ça de l'intérieur, toi, Hugo, alors?
Ouais, ça reste timide, hein, la professionnalisation. Ça reste assez anecdotique. Là, on a encore eu des petits changements de team cet hiver, mais qui sont pas très, très conséquents. Puis les moyens mis en place sont pas non plus énormes pour connaître parfois les montants. Alors quand c'est un chiffre brut annoncé, c'est toujours impressionnant, mais une fois qu'on a retiré toutes les charges, justement, et le mec vit pas sur l'or non plus.
Ouais.
Et je trouve que ça reste harmonieux pour l'instant. Le truc, c'est qu'il y a de plus en plus de pratiquants, donc évidemment, tu as des courses de plus en plus plébiscitées. Et c'est pour ça que j'en profite encore une fois pour encourager les gens peut-être à se rapprocher d'organisations, parce que créer une course, ça peut permettre aussi de diluer un peu le nombre de coureurs. Parce que l'an dernier, on a vu qu'il y avait énormément de courses remplies alors qu'elles ne l'étaient pas avant, et certains ne pouvaient plus s'inscrire.
Ouais.
Donc il y a vraiment un engouement, mais c'est normal, hein, c'est une discipline très plaisante. Là, je le vois quand je fais ma chronique tous les lundis avec ceux qui sont un peu abonnés, je parle de leurs résultats à travers la France et même dans des lieux, pardon, hein, mais un peu plats et pas très rigolos, ils arrivent à faire du trail.
Bien sûr.
Et vu que tu as juste besoin d'une paire de baskets pour commencer, après tu peux te munir de tout un tas d'équipements, mais tu peux commencer simplement, y a du monde, ouais.
T'es même venu faire l'éco-trail de Paris, c'est vous dire. T'as fait podium,
oui,
d'ailleurs,
l'an
je crois.
Dernier, ouais.
Bah oui, bien sûr. Donc,
oh. Je m'étais bien préparé, hein. J'avais préparé le truc, franchement, sérieusement.
Le terrain t'a plu?
Eh ben oui. Alors, moi, il faut savoir que je ne suis jamais venu à Paris, donc c'était la première fois.
Ah oui, d'accord.
Ouais, non, mais enfin, j'avais vite fait un truc, mais bon, c'est... Et j'ai trouvé ça assez agréable quand même, hein. Je m'attendais vraiment à pire. Après, on a eu des bonnes conditions météo, ça joue aussi. Mais du coup, cet aspect découverte, parce que je connaissais un peu les noms des parcs, les noms de quelques villes.
Ouais.
Et du coup, de les traverser, il y avait un petit aspect découverte sympa. Et je ne m'interdis pas un retour pour leurs 20 ans, normalement c'est en 2027.
Voilà, et tu seras de retour, incroyable, magnifique. On t'attend avec impatience. Allons-y sur l'évolution que tu as eue dans ta carrière, parce que tu es quand même athlète de haut niveau, trailer de haut niveau, hein. On ne va pas chercher des top 30 sur l'UTMB aussi facilement. À quel moment, parce que tu arrêtes le VTT, tu te mets à la course à pied et au trail, à quel moment tu prends conscience que tu as des qualités, que tu peux faire des trucs et qu'il faut, entre guillemets, structurer ton entraînement, quoi?
Ouais, t'as raison de souligner, il y a une certaine partie de mon chiffre d'affaires, on va dire une dizaine de pourcents, c'est de la rémunération pure de sponsors, donc oui, on peut dire athlète de haut niveau, en tout cas en trail, ultra trail. Alors, moi, quand je suis arrivé, j'ai tout de suite pensé que j'allais gagner. Je me suis dit, il y avait la Maxi Race, les mecs, ils faisaient la course de sélection pour les mondiaux.
Ouais.
J'avais vu ça dans le magazine Try Endurance Mag que mes parents étaient abonnés depuis je sais pas combien d'années. Et je me suis dit, je vais y aller et puis je vais gagner la course parce qu'elle se gagne même pas à 10 de moyenne. Et comme je faisais mes footings le long du Rhône à Valence...
Ça, c'est une bonne réflexion de routard.
C'est facile.
Hein. Ah ouais, c'est ça. Tu dis, attends, 10
heures,
ça va.
Ouais, complètement. Ouais. Et effectivement, je suis parti avec le groupe de tête parce que comme je venais du vélo, j'avais quelques qualités physiques. Sauf qu'en haut de la première montée, j'avais puisé toutes les réserves de glycogène. En bas de la première descente, j'avais bousillé tous mes muscles. Et les 60 km qui restaient, c'était de plus en plus lent, quoi. Et là, j'ai compris, là, après.
Ça aussi, c'est drôle, Johan, parce que c'est la particularité d'Hugo. Notamment sur les premiers UTMB aussi, c'est que toi, t'avais pas...
Ouais, je pensais que j'allais gagner aussi, ouais.
T'avais pas cette notion comme ça de gestion de l'effort et tu t'es retrouvé dans des groupes de tête aux côtés de François Denne. Tu l'as vite payé, par contre, ça c'est sûr.
L'humilité, elle est arrivée après.
C'est le problème, hein.
Elle est arrivée, mais après, ouais.
Ouais, ça c'est sûr. C'est la difficulté du trail et de l'ultra, hein, Yodu, hein, c'est sûr.
C'est ça, c'est quand on pense que c'est deux disciplines un peu complémentaires, que c'est la même chose, que tu cours tout simplement. Tu vois, tu te dis, si t'es capable de courir un marathon, tu peux courir un 80 bornes à 10 à l'heure, mais pas du tout. On l'a vu avec Duncan qui est venu sur l'UTMB, Duncan Périlla, avec Hassan qui allait au Templier. Ils l'ont pris un peu à la légère, et c'est deux disciplines qui sont totalement différentes et ça ne s'improvise pas. Tu ne peux pas décréter de devenir trailer du jour au lendemain. Tu ne peux pas décréter de savoir descendre, d'avoir les muscles pour encaisser les chocs en descente, de savoir bien t'alimenter, que ton corps puisse courir pendant 6 heures d'affilée sans s'arrêter. Voilà, c'est des choses qui se travaillent sur le long terme, et effectivement, il faut apprendre avant de titiller, de pouvoir jouer avec les meilleurs.
Ouais, Duncan qui était à l'UTMB Saint-Jacques, tu y étais aussi sur cette course, je crois d'ailleurs, Hugo, ce jour-là ? Ou c'était pas la même année ?
Non, je l'avais fait l'année d'avant.
Ah, c'était l'année d'avant, ok. Parce que Duncan, on rappelle cette histoire, hein, donc déçu du marathon de Rotterdam, il file à l'Ultra Saint-Jacques, il part comme un marathonien de haut niveau, donc il part à Donf. Il finit par gagner la course, mais il termine en zombie. Donc forcément, c'était délicat à la fin de course, mais tellement de qualité au départ.
Ah, il avait fait un beau chrono. Hein, ah, il a quand même fait un beau chrono.
Ah, bah, c'est quand même coureur de très haut niveau. Et pour ton information, Hugo, notre ami Yodu, il est très attiré par le trail. Hein. Tu sais qu'il va vite basculer une fois que la carrière sur route sera terminée. Hein, donc il va vous rejoindre. Hein. Méfie-toi quand même.
Ah ouais, j'ai entendu. Ouais.
Méfie-toi quand même.
Mais par contre, moi, je l'espionne un peu. Il faut oublier sa carrière de marathonien. Tu vois, là, le problème pour l'instant, c'est que les gens qui y vont, ils s'entraînent encore comme des coureurs sur route ou des marathoniens avec l'esprit d'un coureur sur route. Or, tu fais un reset total, c'est une nouvelle carrière. Tu vois, c'est vraiment, il faut tout apprendre. Bah, on part de zéro.
C'est sûr. Et Hugo, bah, raconte-nous, parce que t'as d'un côté ce personnage très drôle, très second degré, très bonne franquette, entre guillemets. Mais tu as aussi cette problématique donc de trailer de haut niveau et de structuration d'entraînement, de planification. On l'a dit, tu as un coach qui te fait beaucoup bosser. Elle est là la différence avec notre pote Casquette Verte, par exemple, qui lui reste dans ce côté vraiment défi fou, pas artisanal, mais un peu, il fait tout ça à l'envie. Toi, tu es beaucoup plus structuré dans l'entraînement, en tout cas, Hugo.
Ouais, c'était un choix de ma part. D'ailleurs, je salue Alex qui a fini avec une très belle marche son défi le week-end dernier.
Eh oui, parti de l'imprimerie pour amener le livre chez sa mère. Bravo Alex. Il sera avec nous d'ailleurs à la fin du mois dans RMC Running, Alex.
un sacré dingue quand même.
Ouais.
Et j'ai tout de suite voulu, m'entraîner correctement. Enfin, au bout d'un an, quoi. Avec mon entraîneur Patrick Bringer, qui est de Clermont. Mmh. Après, il y a eu des années un peu de réglage, de découverte, quelques péripéties, parce que j'avais fait une grave chute. L'année d'après, il y avait un Covid.
T'as eu des blessures.
Et c'est vrai que c'est que depuis 2022 où c'est hyper structuré, par contre.
Ouais.
Là, il y a des créneaux dans l'emploi du temps. Avec mon statut d'auto-entrepreneur, au début, j'avais un peu tendance à faire n'importe quoi. Et depuis 2022, j'ai structuré le truc, quoi.
Mais surtout cette intelligence, Johan, parce que c'est un trailer de haut niveau, mais il a aussi d'autres activités. Et tu l'as dit d'ailleurs dans le dernier podcast, Hugo, tu disais non, l'important c'est la planification et toujours penser quand vous choisissez une course à la date et à ce que vous avez prévu à ce moment-là, notamment d'un point de vue professionnel. C'est-à-dire si tu as du speaking sur 4 semaines d'affilée et c'est juste avant la course, bah, tu ne vas pas choisir cette date et tu vas en privilégier une autre. Tu vas aller chercher une autre course. Tu as une logique comme ça de planification qui est très bien articulée aussi, Hugo.
Ouais, bah c'est aussi pour ça que l'UTMB tombe à une bonne date pour moi fin août. Et c'est aussi pour ça que je cours très tôt dans l'année. Hein. Ça peut paraître tôt, mais en fait, pour moi, c'est là où j'ai l'occasion de me préparer. Hein. C'est en mars. Donc, je peux me préparer tout l'hiver. Donc, effectivement, hein, de plus en plus, aujourd'hui, les gens ont des métiers un peu différents par rapport au passé. Et du coup, il faut aussi choisir ses courses, pas forcément par rapport à « Oh là là, c'est l'hiver, on ne court pas. Oh là là, c'est l'été, on fait de la haute montagne. » Il y a des gens que je connais, l'été, en fait, à cause de leur métier qui est en physique et en extérieur, ils sont trop fatigués, ils ne peuvent pas s'entraîner correctement. Donc, eux, ils vont viser une course en mai, en juin, puis après, ils seront 100% à leur travail parce que c'est trop dur. Donc il faut vraiment réfléchir à son emploi du temps professionnel ou familial, hein, bien sûr, pour que ça colle avec les disponibilités de la famille, parce que souvent on entend les sacrifices pour la course et tout. Bon, des fois je trouve ça un peu bizarre. Pour moi, le sport, ça devrait pas trop être un sacrifice, mais plutôt un bonheur d'y aller. Évidemment, des fois c'est dur, hein, tu vas faire 2 heures sous la pluie, bon, c'est sûr que tu te dis, tiens, en fait, il y avait la nouvelle série sur Netflix qui était plus sympa. Mais finalement, c'est dimensionné, donc ça passe, quoi. T'avais prévu, finalement, ce petit moment de douleur, quoi.
Et ouais, les pics de forme, bien gérer ses objectifs, c'est le conseil qu'on donne toujours, Johan. Hein. Bien choisir ses moments dans la saison pour aller chercher une perf. Hein.
Ah, complètement, ouais. C'est vrai que je le dis souvent, mais normalement, tu dois planifier deux gros objectifs dans la saison. Et c'est vrai que ces objectifs, ils doivent être aussi planifiés en fonction de ta vie perso, de ta vie pro, des choses comme ça. Et effectivement, c'est sûr que, je sais pas, si t'as un métier et que t'es saisonnier juillet-août, va pas faire un marathon au mois de septembre, tu sais que ça va être ultra compliqué. Donc effectivement, c'est des calculs à faire, c'est de la planification, et quand on veut progresser, la planification, que ce soit dans l'entraînement, mais aussi dans la structuration de sa saison, avec les courses comme objectif, des premières courses pour faire monter la forme, et d'autres avec des gros objectifs, c'est quand même la base pour progresser, et qui dit progression dit prise de plaisir. Non ?
Hugo, c'est important pour toi d'accrocher les dossards, ou est-ce que tu limites le nombre de courses par an ?
Non, bah en fait, il s'est limité tout seul avec mon métier de speaker, c'est que je peux pas courir beaucoup de week-ends. Du coup, je cible mes gros objectifs. Si j'ai l'occasion, je fais une course de préparation 3-4 semaines avant. Si j'ai pas l'occasion, je peux me faire mal chez moi aussi, il n'y a pas de problème. Et j'accroche assez peu de dossards parce que finalement, c'est du temps, entre guillemets, perdu parce que comme je suis jamais là les week-ends, bah, tu rates les anniversaires, la famille, tout ça. Ouais. Donc j'ai aussi des week-ends où je cours pas et j'anime pas pour passer un peu de temps en famille. Ça, c'est vrai que Ludovic Collet m'avait tout de suite interpellé là-dessus. Il m'avait dit, tu verras, c'est cool de bosser les week-ends, mais au bout d'un moment, tu vas avoir des remarques.
Ah bah et oui.
Il avait raison. Et, donc j'essaie de faire attention à ça plutôt que d'enchaîner les dossards. Ouais.
Oui, nous, on l'a fait venir au record du monde organisé par RMC Running en juin dernier. Il avait dû négocier avec son épouse, qu'on salue et qu'on remercie, parce qu'elle elle nous l'a prêté pour un samedi et un dimanche en plein mois de juin, quoi, c'est sûr. On l'a dit, l'événement pour toi de l'année, systématiquement, c'est l'UTMB. Tu as un amour profond pour cette épreuve, hein, parce que forcément, bah, ça concerne ta région et tu y es très attaché. Dans ta planification, ouais. Une prépa spécifique UTMB, elle dure combien de temps, Hugo, alors ?
Ouais, elle dure un peu toute l'année. Hein. Tu peux quand même difficilement, une fois que tu as...
C'est ton objectif de base. Quoi qu'il arrive, c'est la course de l'année qu'il ne faut pas rater. Il faut être le plus performant sur cette date. Ouais.
Ouais, bah maintenant, parce que c'est devenu tellement gros médiatiquement. Bah, c'est à 1h20 de route de chez moi. Hein, donc c'est vrai que c'est aussi facile d'y aller. J'apprécie ça. Il y a des amis à mes parents qui l'avaient fait en 2003, la première année, donc j'ai tout de suite baigné dedans, même si je courais pas, en fait. On me harcelait déjà avec ça. Et puis, c'est quand même quelque chose, quoi. Hein. Tu fais le tour du Mont Blanc, tu traverses trois pays, ça a de la gueule. Un peu comme un grand raid de la Réunion où tu traverses l'île, voilà, c'est... Le tracé a du sens, quoi. Et c'est vrai que ça se prépare un peu toute l'année, donc j'ai un objectif de trail longue distance, on va dire, en mars, voire presque ultra parfois. Et puis après, je travaille beaucoup quand même, c'est très fatigant en mai. Avril, ça va, juin, ça l'est un peu. Et du coup, en général, j'arrive à placer un objectif fin juin, mi-juillet. Enfin, c'est un semi-objectif, donc là, ça va être le Lavaredo, qui ensuite me laisse faire une prépa 100% UTMB, par contre, pendant 7-8 semaines, où là, tu fais vraiment de la montagne. Pour l'UTMB, donc là, tu mets de côté les séances VMA au club, tu fais beaucoup de rando-courses, donc tu montes en marchant avec tes bâtons, tu descends en courant pour la casse musculaire, etc. etc. Et disons que ouais, de fin juin à mi-août, c'est la montagne et des entraînements vraiment cibles pour l'UTMB, mais toute l'année, il y a une philosophie quand même de volume pour, quand tu arrives en juillet, être capable d'encaisser des grosses semaines, parce que si tu n'as rien foutu jusque-là, ça va être difficile.
Ça, c'est sûr. Johan, ça doit te plaire, cette structuration, cette planification comme ça, tout le côté spécifique, faire de la caisse tout au long de l'année, mais vraiment axer comme ça et organiser son année pour la fin du mois d'août.
Ouais, non, mais ça me plaît. Après, tu sens que Hugo est quelqu'un de réfléchi dans l'entraînement.
Ah, c'est l'ingénieur, ça. Hein.
Planifié, c'est un vrai coach, hein. C'est un vrai ingénieur. voilà, c'est carré. Et voilà, effectivement, il sait très bien que la VMA, à partir de juin, pour le TMB, elle va te servir à rien. C'est pas elle qui va t'aider sur les 173 km de la course. Hein. Donc, effectivement, il y a des périodes où tu dois planifier, tu développes certaines parties de ton corps, certaines capacités, et d'autres où tu travailles d'autres filières. Et non, c'est comme ça qu'il faut travailler. C'est comme ça. Là, ça nous paraît fou, mais c'est juste la logique de l'entraînement, et c'est comme ça que tout le monde devrait faire, en fait.
Ah ouais, exactement. Est-ce que tu as un rêve secret de chrono à l'UTMB ? Parce que j'ai vu là aussi des trucs sur Internet en faisant des recherches. C'est quoi ton rêve ultime sur l'UTMB, Hugo ?
Ouais, c'est une question qui a évolué parce que déjà, je me suis dit, il faudra faire top 10 sur cette course. En 2021, le top 10, il est en 23h10. Ouais. En 2023, je mets 23h08, mais je suis 22e. Donc,
ouais, c'est ça.
Tu sais, malheureusement, le rêve grossit au fur et à mesure du temps. Tu te dis, mais mince.
Il faut basculer jamais sur le chrono, du coup. Il faut compter que sur toi. C'est ça le truc.
Ouais, c'est vrai. Bah, tu regardes le chrono parce que bah, c'est, tu peux, quelqu'un qui est plus fort que toi, il est plus fort que toi. Tu pourras pas lutter.
Ouais.
Mais le chrono, ben, quand tu vois, j'ai des amis, voilà, Arthur Joyeux-Bouillon, on s'est souvent entraînés ensemble quand il commençait le trail vers 2018. Je pense qu'on a plus ou moins la même génétique, donc les résultats qu'il fait, ben, pourquoi je me les interdirais ? Alors aujourd'hui, j'ai un rythme de vie qui est différent du sien, ce qui fait que ben, par rapport à Arthur, je suis un cran en retard. Mais heureusement, Ludovic Pommeret est là pour nous rappeler que jusqu'à 50 ans, c'est
voilà,
pas fini.
C'est ça,
donc je vais persévérer.
Le roi des remontadas.
Je vais persévérer et c'est vrai que passer sous les 22 heures, je pense que c'est possible. Après, au-delà, ben, à mon avis, c'est des gens quand même assez exceptionnels, enfin, en tout cas plus que moi. Mais encore une fois, ça évolue. Donc,
comment
ben, disons que l'an prochain, si on pouvait se rapprocher du 22 heures, je serais content.
Ah bah,
enfin, cette année,
beau,
quoi, 2025.
À 22 heures, ça serait magnifique et c'est tout ce qu'on
se
te souhaite.
Se rapprocher, attention.
Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Comment tu es perçu dans le monde du trail de haut niveau, alors ? Avec ses casquettes, avec ce personnage du duc de Savoie, avec la duc Army qui vient te soutenir comme ça sur l'UTMB. Est-ce que c'est apprécié par les autres ? Est-ce qu'il y a un peu de tout ? Comment ça se passe ?
Ouais, ouais, je pense que... Bon, moi, je discute souvent avec les autres trailers de haut niveau, hein, même qui sont largement supérieurs à moi, parce que tous les lundis, j'en interview un pour ma chronique, et les gens se prêtent toujours au jeu. Même Mathieu Blanchard avait trouvé un peu de temps pour me répondre l'an dernier après sa Maxi Race. Donc, on avait fait une super, super interview, on avait parlé le double du temps off. Donc, je m'entends bien avec tout le monde, mais ça, c'est depuis que je suis tout petit, j'ai un feeling et un relationnel aux gens, parce que je suis très ouvert et très tolérant sur quasiment tous les sujets. Donc, je peux vraiment me fondre avec n'importe quelle population. Et du coup, avec le haut niveau, bah, ça discute sans aucun souci. L'ambiance, elle est toujours extrêmement détendue, même sur les courses au début. L'an dernier, à l'UTMB, je m'arrête pour uriner un petit peu au bout de 5 km. Thibaut Barognan, il me voit faire. Il me dit « Oh, si tu t'arrêtes, je m'arrête !» Parce que lui, c'était son premier. Il était peut-être un peu stressé. Donc, hop, on a fait un peu pipi ensemble. T'es content. Okay. Et c'est Germain Grangier. Enfin, voilà, des gens qui sont sans arrêt sur la blague. Et après, pour le grand public... Bon, y a ceux qui me connaissent sans doute pas, ce qui est tout à fait possible. Alors c'est dommage, mais ils devraient. Mais il y a aussi ceux qui me voient sur les événements. En général, on a toujours un peu de temps pour discuter quand les événements sont longs. Donc c'est toujours très sympa. Et après, il y en a peut-être des fois qui tombent sur... C'est le problème des réseaux sociaux. Des fois, tu tombes sur
oui.
1% du contenu de la
ben
personne.
Oui. Voilà.
Et c'est pile le truc qui n'allait pas dans ton sens. Et tu te dis, ouais, celui-là, il est idiot.
T'as une mauvaise image.
Il ne faut pas le juger au premier regard. Il faut regarder l'ensemble de l'œuvre à chaque fois que vous avez quelqu'un devant vous. Par exemple, vous allez à la poste, le mec ne veut pas faire ce que vous voulez. Il ne faut pas en déduire que c'est le dernier des enfoirés. Ça se trouve, il y avait un autre problème qui émanait peut-être même de vous et il faut creuser, quoi.
Voilà, c'est ça, pas s'arrêter aux a priori. T'as bien raison.
Ouais, voilà. C'est pas parce que t'as eu une petite vexation que...
L'aspect communautaire, tout ce que tu as développé, etc., ça te met une pression ou pas du tout ? Ça change rien dans ta pratique sportive et notamment sur les gros objectifs ?
Non, une pression, pas tant que ça, parce que, en fait, quand t'es parti, tu l'oublies un petit peu. Ce qui est dommage, d'ailleurs, parce que des fois, je pourrais me rattacher à cette énergie positive. Il faut que j'y travaille pour les prochains objectifs longs. Mmh. Mais... Et puis tant que tu fais pas une grosse bêtise, bah, la communauté comprend toujours, que ce soit la performance ou la contre-performance. Après, c'est vrai que cet abandon à l'UTMB l'an dernier m'a quand même... mais c'était après coup, hein, tu vois, m'a quand même bien perturbé.
Ouais.
Déjà parce que c'était la première fois, je me disais, mince, qu'est-ce qui m'est arrivé ? L'entraînement avait été, encore une fois, exceptionnel en amont, avec une forme... encore meilleur, donc j'étais vraiment vexé. Après, bon, bah, y avait la maladie, là, on s'était passé un peu un Covid, alors on répond pas tous pareil à cette maladie étrange. Et moi, ça m'avait du coup poussé à m'arrêter. Donc c'est vrai que tant que j'aurais pas repassé cette ligne d'arrivée, il y a quand même une petite pression en te disant ben ouais là on a merdé, il va falloir faire correctement la prochaine fois, même si on peut pas écarter le risque zéro. Puis c'est vrai que quand t'as des petits soucis, en général ils s'enchaînent, donc il faut être très vigilant à ce moment-là. Mais je dirais plutôt que ça m'apporte du sérieux. Tu vois, là je partage ma préparation pour le Chianti régulièrement,
ouais.
Et du coup je rends des comptes un peu à la communauté. Donc si d'un coup, une semaine, je fais n'importe quoi à l'entraînement, ils vont dire « Mais attends, Hugo, tu nous vends un truc, puis finalement tu nous racontes l'inverse, mais t'es un menteur, t'es un affabulateur, qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc ça t'apporte du sérieux, ça te cadre, ça... Moi je trouve ça plutôt bénéfique. Après, il y a toujours des mauvais côtés, mais globalement, je pense que c'est bénéfique.
Ouais. Johan, l'importance de faire les bons diagnostics hein, quand une course ne se passe pas comme on l'a prévu, savoir poser les bonnes bases des problèmes de ce qui n'a pas fonctionné pour repartir de l'avant.
Oui, bah ça c'est toujours, je l'ai toujours dit, hein, tu dois faire un débriefing à froid, tu as un premier débriefing à chaud quelques heures après la course où là généralement bah, c'est la déception, tu mets ça sur le compte de un peu tout et n'importe quoi et puis après tu te poses tranquillou avec ton coach et tu fais vraiment le débriefing pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, est-ce que c'est, voilà, quand c'est une maladie, bah, là tu peux absolument rien y faire, quand c'est des erreurs de préparation, bah, là l'idée c'est de savoir qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qu'il faudra changer pour la prépa suivante. C'est super important de rebondir, mais pour rebondir, il faut quand même faire cette espèce d'autocritique et de
introspection,
d'analyse. Mmh. Mais même quand ça se passe bien, hein, je pense qu'il y a quand même des choses à faire, même quand ça se passe bien, même si tu gagnes une course, bah, pareil, tu peux faire des erreurs pendant la course, pendant la préparation. Je pense qu'il faut quand même un vrai moment d'échange avec le coach plusieurs fois dans la saison pour tirer justement les causes, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui marche pas, et pour l'améliorer pour les prochaines compétitions et les années à venir. Ouais.
Hugo, parle-nous de ce format podcast, parce que là aussi tu es très fort sur le digital entre guillemets, et donc les podcasts, tu l'as dit, tu fais ça très régulièrement. C'est quelque chose qui te plaît, ça correspond à ta personnalité, parce que tu es donc speaker, animateur. Développer cette communauté de la Duke Army, c'est quelque chose qui te régale, ouais.
Ouais, j'y passe un sacré temps hein, toute la semaine. Ouais. Ça m'occupe énormément. Alors au début, c'était venu un peu comme ça pendant le Covid parce que je pouvais plus animer de course. Donc à un moment donné, il y a eu moins de 100 euros sur le compte bancaire. Il a fallu réagir. Et depuis, ça n'a fait que augmenter. Hein. Au début, je partageais des toutes petites choses le vendredi. Là, maintenant, on a une grosse chronique le lundi, une interview. Et c'est vrai que j'avais lancé le tout premier podcast du mercredi, qui lui est libre d'accès pour tout le monde, en février ou janvier 2018. Parce que quand j'avais commencé le trail, il n'y avait aucun contenu. Et en fait, en musculation, il y avait énormément de contenu. J'avais eu une mononucléose, donc j'avais suivi du contenu musculation, parce que j'avais que ça à faire pendant. Et il y avait beaucoup de choses intéressantes. Il y avait déjà des vidéos, hein, 2006, 2016, 2007, il y avait des vidéos YouTube. Et en trail, rien. Alors, il y avait un petit peu Seb Chéniaud, qui faisait des Get Ready For, je crois, avec son partenaire de l'époque. Mais sinon, rien. Du coup, j'avais lancé un podcast, un peu bah, dès le début. Hein, c'était fourre-tout. C'était déjà un peu le bordel, mais il est resté du coup dans le même ton, même si bah, j'ai évolué, parce que j'ai 7 ans de plus quand même.
Ouais.
Mais c'est vrai que du coup, je suis resté dans ma tradition à moi. Des fois, il y en a qui me disent « Ouais, mais lui, il fait ça mieux et tout. » Je dis « Bah oui, mais ça, c'est son truc à lui. Et puis moi, j'ai mon truc à moi. On va pas tous se copier, quoi, sinon c'est ridicule. » Et bah, succès, puisque maintenant, il y a plein de podcasts de course à pied, de trail, plein de... gars qui font des trucs géniaux sur YouTube. Tu disais qu'en route, ça manquait, c'est vrai. Mais on a par exemple Baptiste Carcio qui fait des sympathiques contenus. J'encourage les gens à partager le plus possible leur préparation, etc. Hein, que ce soit des athlètes de route ou de trail. Parce que ça plaît, parce qu'il y a sans arrêt des débutants qui ont envie de s'inspirer, etc. etc.
Et surtout guider les gens, et c'est ce que tu fais dans le secteur de l'alimentation notamment. Hein. C'est-à-dire que les gens sont avides de conseils quand ils se lancent.
Il y a le retour d'expérience.
Et voilà, c'est ça. C'est ça la marque de fabrique et la plus-value aussi de ton blog notamment, c'est qu'on va chercher des conseils concrets quand on est sur la préparation d'objectifs si difficiles à atteindre, quoi.
Oui, puis il y a vraiment le truc de « bah écoutez, moi je vais là-dedans à fond, je teste et je vous fais un compte-rendu ». Donc des fois, il y a des gens, ils me disent « Waouh, mais tout ce que tu fais, ah mais comment ça se fait que tu gagnes pas parce que c'est hyper précis, hyper professionnel, nanana. » Et je leur dis « Ouais, mais des fois, je me plante. » L'an dernier, j'essaye un protocole chaleur. Finalement, le truc sur le papier, c'était génial. Et puis dans la vraie vie, ça marchait pas. Donc j'ai détaillé pourquoi. Et du coup, l'UTMB, peut-être que j'y suis arrivé avec certes une forme excellente, mais derrière une petite faiblesse sur le plan immunitaire. Et voilà, la semaine sur le salon, j'ai chopé une cochonnerie. Et puis voilà, c'était foutu, quoi. Donc c'est du retour d'expérience en disant, regardez, tel professionnel nous a fait un bilan. Voilà, moi je suis allé le chercher, je l'ai rémunéré pour qu'il nous écrive l'article, qu'il nous explique. Moi derrière, j'ai appliqué le protocole pendant tant de temps, j'en ai tiré tel bénéfice, tel inconvénient. Voilà, faites-en ce que vous voulez, suivant votre rythme de vie.
Et voilà, et au moins c'est du conseil personnalisé aussi, parce que tu peux guider les gens aussi, quand on te pose des questions, tu y réponds, tu prends le temps, et ça c'est ce que les gens adorent, notamment ce qu'on fait nous aussi, Johan, avec la prépa marathon de Paris, c'est que il n'y a rien de tel que de répondre à une question concrète, c'est ça qui aide le plus ceux qui nous écoutent.
Ah bah c'est le plus simple, ouais. C'est la problématique rencontrée par le coureur, et c'est souvent... il n'est pas seul dans son cas, donc c'est vrai que tu peux te retrouver et aller chercher comme ça des contenus qui sont plutôt bien faits et plutôt sympas à regarder, qui sont pas trop non plus scientifiques, parce que le problème c'est ça, c'est que quand on parle d'entraînement, des fois on tombe sur des gars qui c'est quand même assez compliqué à comprendre, et donc vulgariser le truc au maximum pour que tout le monde puisse y avoir accès et comprenne le sens du message qu'on veut faire passer, c'est quand même la base aussi, et c'est ça qui est plutôt cool.
Ouais, donc écoute, on te félicite pour tout ça. On peut rappeler d'ailleurs le nom de ton blog, hein, Hugo, le Duc de Savoie, pour aller chercher des conseils et écouter les podcasts, etc.
Ouais, c'est duc-army.fr.
Et voilà, la Duc Army, avec les produits dérivés, tout ça, la casquette, les chaussettes, le bandeau. Ouais. Magnifique.
Ouais, c'est pareil, j'essaye de faire du Made in France.
Ouais.
Parce qu'on pensait que, enfin moi, naïvement, je pensais que c'était impossible. En fait, on peut faire des choses, pas tout évidemment, mais voilà, je bricole, et chaque année, on fait de plus en plus de choses, c'est intéressant.
Et en plus, c'est siglé, et comme ça, on fait partie d'une communauté. Je précise d'ailleurs que tu as monté un club aussi en partenariat avec la Fédé d'Athlé, ce que je trouve génial, et qui est peut-être un concept auquel on va réfléchir, Johan, parce que moi aussi, j'adore l'idée de se dire on court sous la bannière RMC Running ou sous la bannière de la Duc Army. C'est marrant, ça, quand même. Tu dois avoir des mecs qui font des résultats sous ta bannière. C'est un objectif.
Duc Army, c'est énorme.
Et ouais, c'est énorme, mais ça doit te régaler, ça.
Il faut voir le t-shirt après.
Et voilà, en plus.
Du club.
Ouais, le t-shirt du club, le résultat des mecs et tout, c'est drôle.
Ouais, en fait, on a lancé ça parce que y en a qui me suivent. Tu vois, ils font du trail chez eux, mais chez eux, c'est au fin fond de la Lozère. Chez eux, c'est au milieu de la Creuse.
Bah oui.
Donc, c'est des gens qui sont à 1h30 d'un club FFA et du coup, ils vont pas se licencier parce qu'ils vont jamais participer à un entraînement en club. Mais par contre, ça leur fait plaisir d'avoir une licence parce que là, on en a deux qui font le championnat de France de 10 km. C'est pas les favoris, hein, mais on en a qu'on fait un peu les crosses.
Et
du coup, ils viennent sur ces épreuves labellisées FFA, ils y seraient pas venus avant, et ils sont tout contents d'avoir une licence. Moi, je l'ai faite le moins cher possible, parce que comme je propose rien à côté, c'est vraiment juste pour leur dire, vous êtes tout seul autour de chez vous, vous avez quand même cette licence
Vous n'êtes
abordable,
pas seul, les mecs.
Et du coup,
ça.
Vous pouvez faire les courses.
C'est ça. Exactement. Très bonne idée, très beau projet et bravo pour toutes ces idées. Tu vas voir, on parlait de, entre guillemets, d'éco-responsabilité et de fabrication de textiles made in France. Tu vas voir, ça concerne notamment le bon plan matos.
RMC, le bon plan matos.
Avec la marque Sensus qui est toujours avec nous, qui nous avait accompagnés sur le record du monde, et notre ami Théo Lapouge, grand crossman et fondateur de cette marque qui est avec nous. Salut Théo.
Salut Benoît.
Ça va Théo?
Très bien, et toi?
Bon, ça te parle, hein, le Made in France, comme ça, les circuits courts, le moins de pollution possible pour confectionner des vêtements, ça c'est toute ta came, hein, mon vieux.
Ah, ça nous parle bien, ouais, ça nous parle bien.
merci d'être là. Je rappelle, hein, Sensus, l'orthographe, donc S-E-N-S-U-S. Vous y allez, c'est tous les articles de running avec une nouveauté que tu voulais mettre en avant et qu'on voulait mettre en avant ce matin dans RMC Running, Théo. C'est donc ce nouveau short que vous allez sortir d'ici quelques jours d'ailleurs, hein. Ça va arriver à la mi-février. Hein.
Exactement, ouais. Alors c'est notre nouveau short, le short ultime, on a décidé de l'appeler comme ça. Il a été co-créé encore une fois avec notre communauté de coureurs.
Ouais.
Aujourd'hui d'ailleurs, on les remercie, on a plus de 20 000 coureurs qui nous aident à co-créer ces vêtements-là. Mm-hmm. Donc on commence à avoir des retours hyper intéressants sur notamment des shorts en l'occurrence. Donc ça va être un short qui a une poche clé à l'intérieur, donc pour sécuriser un peu le matériel, des gels, des barres, qui va être super léger parce qu'il fait 55 grammes pour hommes et 45 grammes pour femmes. Et ensuite on l'a créé pour qu'il évite les irritations, donc notamment à l'entrejambe, avec un tissu qui est super doux, des coutures bien placées et pas de slip intégré.
Ouais, c'est toujours du bon projet, enfin du bel article de running, et avec une durée de vie longue. C'est ça qui nous intéresse avec toi, Théo, c'est que quand on achète un short, certes ça a un coût, c'est fabriqué en France, donc c'est une bonne action, et surtout on peut le garder très 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 longtemps si on l'entretient bien et si on le lave correctement.
Ouais, exactement. Alors il y a deux sujets. Nous, comme on est sur un système de précommande, on crée des vêtements qui sont durables parce qu'on se dit, ça fait sens finalement que d'attendre 6-7 semaines la production de son vêtement si on doit le porter derrière des années et des années. Donc on n'est pas pressé sur ces délais-là parce qu'on fait des vêtements qui vont durer longtemps. Et en fait, alors comment on les fait durer plus longtemps? Nous, on ajoute des surcoutures aux endroits où ça craint le plus. Donc par exemple, au niveau du short, ça va être là où le short va s'étendre au mouvement. Donc on vient mettre des surcoutures pour éviter que ça lâche. On a des fournisseurs de qualité dans le sens où nous, on est transparent sur nos fournisseurs. Donc on vient les déclarer. On vient dire, là en l'occurrence, je vais les citer, ça va être Payen, un fabricant dans l'Ardèche en France, qui est leader dans les tissus élastiques depuis plus de 60 ans. Et Payen, avec eux, on a créé un tissu issu de déchets textiles recyclés. Et donc ça, c'est de la très très bonne qualité de tissu. Pour l'élastique, c'est pareil avec Berteas. Et ensuite, c'est Siena au Portugal qui confectionne. Et c'est des entreprises qui sont connues dans le milieu depuis des années. Donc on a aussi des fabricants de qualité. Ensuite, on a des fiches techniques. En fait, nous, sur les pages produits, d'ailleurs, j'invite tout le monde à aller voir. Ouais. Sur les pages produits, on mentionne la fiche technique du tissu. Donc on dit, sa résistance au lavage, c'est tant. Sa résistance au rétrécissement, au lavage, c'est tant. Et du coup, on n'a que les notes maximales, nous, parce que si on n'a pas la note maximale, on ne le sort pas, tout simplement. Donc là, ce tissu-là, il va avoir la note maximale au niveau du lavage, la transpiration, du rétrécissement. Donc c'est parfait. Et ensuite, tu l'as dit, au niveau de l'entretien. Alors nous, on n'est pas chez le coureur pour l'aider à entretenir le vêtement. Par contre, on donne des guides d'entretien, ouais, qui sont dispo sur le site, d'ailleurs, en temps réel. Et donc ça, c'est pour. C'est nos conseils à nous pour. Entretenir son vêtement de la bonne manière et qui dure encore plus longtemps, quoi.
Le poids du short en M chez les hommes, c'est 55 grammes. Hein, donc, ce ne sera pas une excuse de dire j'ai le short lourd pour ne pas aller chercher un chrono, Théo. Là, ça ne marche pas.
Hein. Non, exactement. 55 grammes, c'est lié au tissu, surtout, qui est très, très léger et qui est très solide en même temps, qui est très élastique. Et l'élastique, au niveau de la taille, qui est léger aussi. On a créé un short léger qui n'est pas trop léger, mais c'est vrai qu'on l'oublie presque quand on court, donc c'est un confort.
Et donc, il faut le précommander avant la sortie, là. C'est-à-dire que si on va sur le site, on y va, on passe commande et puis on le reçoit combien de temps après?
Exactement. Alors, la précommande, elle va être du 15 février au 2 mars,
okay,
sur notre site, donc www.sensus.run.
Ouais.
Et ensuite, livraison début mai. Donc voilà, le temps de la production. Nous, derrière, pour vous donner un ordre d'idée, donc on finit la précommande le 2 mars, on lance en production le tissu. Ensuite, notre confectionneur, il est au courant, il reçoit le tissu, il confectionne et ensuite on livre.
Bon, Théo, merci beaucoup pour la mise en avant une nouvelle fois de ce nouvel article de la marque Sensus. Short ultime, hommes et femmes. Je précise que tu en fais gagner deux exemplaires, hommes et femmes, hein, d'ailleurs. Deux pour les femmes, deux pour les hommes. Et on va mettre ça en place sur nos réseaux sociaux. Sinon, vous allez sur le site de Sensus si ça vous intéresse de les commander. Merci Théo. À bientôt dans RMC Running. Bye bye. Et le test d'écoute va être très simple vu qu'on reçoit le duc de Savoie. Il a tout expliqué tout à l'heure. Il a dit comment le surnom du duc est né. Il est allé gagner une course chez François Denne. Vous nous donnez le nom du trail qu'il a remporté sur les terres de François Denne et comme ça vous pouvez participer au tirage au sort pour ces super shorts ultimes de la marque Sensus. C'est pas mal comme test d'écoute. Qu'est-ce que t'en penses, Hugo? Ça, c'est... Tu l'as dit, hein? Tu l'as dit tout à l'heure.
Ouais, tu les attrapes. T'es sûr, là.
Ouais, c'est ça.
J'avais déjà échangé un peu avec la marque Sensus. C'est un bon produit, hein, c'est vrai. Hein.
Ah ouais. Nous, on était ravis, tu vois. On a organisé donc le record du monde RMC. Ils nous ont accompagnés et les produits sont de grande qualité. Théo avait fait le test du t-shirt. Il l'avait mis 13 fois avant de le laver. Il avait dit ça sent pas la transpiration. Mais c'est des belles actions, des belles marques qu'il faut mettre en avant et on n'hésite jamais à les pousser, en tout cas. Yodu, c'est pas mal, hein. C'est vrai que c'est toujours des actions qu'on aime faire et mettre en avant parce que Théo, en plus, c'est passionné de course à pied. Il fait tout pour qu'il puisse travailler à flux tendu et pas faire de gâchis. Donc, c'est vrai qu'on aime bien les pousser, Johan. Hein.
Ouais, c'est une bonne marque. C'est vrai que ça travaille bien. Les produits sont chouettes. Ils sont respirants. Ils sont légers. Tu vois, il l'a dit, il y a une poche. Enfin, tout est pensé. Ils sont pas trop... Les shorts, tu peux choisir plus ou moins la longueur, les cuissards sont propres aussi. Donc effectivement, tout est pensé pour que le coureur soit bien à l'intérieur. Et puis après, c'est vrai que la plus-value, c'est le côté quand même éthique du produit, avec une conception française, avec des produits recyclables et quasiment tout fait en France. Donc c'est ça qui est chouette, ouais.
Il nous reste à te remercier, c'est passé très vite, hein, Hugo Ferrari, merci d'avoir pris du temps et d'être venu dans notre podcast RMC Running. On te souhaite une bonne préparation pour Chianti. L'objectif c'est quoi? C'est de terminer entre Kylian et Vincent, Kylian Jornet et Vincent Bouillard, c'est ça l'objectif?
Ouais, ça va être un peu dur, mais si jamais il y en a un qui veut craquer, qui n'hésite pas, et je viendrai à ce moment-là, voilà. Pas de problème.
Et on rappelle l'enjeu de Chianti.
Sinon, un top 10, c'est plus réaliste quand même.
Top 10, on te le souhaite. L'enjeu, c'est qu'il y a deux tickets qui seront à gagner pour la Western States. Hein. Il y a ça aussi qui est comme enjeu sur cette course-là. Hein.
Ouais, mais je veux pas y aller, donc il n'y a pas de problème.
Je veux pas y aller, je vous les laisse, je veux juste vous faire plaisir. Voilà, c'est ça. Bon. Et Hugo, merci, tu reviens quand tu veux dans RMC Running. Et écoute, on va te suivre avec beaucoup d'intérêt et on te suivra notamment sur l'UTMB à la fin du mois d'août. On espère que tu iras chercher la barrière dont tu rêves. Tu te donnes les moyens pour y arriver, on espère que ça marchera. Voilà, Hugo, merci.
Ouais, dans un sport de, il faut être régulier chaque année, puis après on a des belles surprises, donc il faut pas être inquiet, continuer de faire ce qu'on sait faire. Merci pour l'accueil, et puis je vais me repasser le jingle, j'avais adoré.
Ah ouais, la production sonore signée Kylian Véro, il a été très bon, évidemment, sur l'entame de cet épisode. Ah, et puis t'as choisi, tiens, la musique de fin, t'as choisi un peu de métal comme ça.
Ah
c'est...
oui
ouais, c'est Rammstein, c'est ça. Voilà, ça donne ça. T'écoutes ça quand d'ailleurs, pour Hugo?
Ouais, alors j'en écoute beaucoup de la musique. Là, on est dans les séances très dures. Tout seul, quand je fais des côtes longues au seuil et qu'il faut se remobiliser un peu, ou quand je suis à la musculation, parce que j'en fais beaucoup.
Et voilà, là tu te butes à la muscu, quoi. Le kettlebell et tout ça, quoi. Allez,
et ça,
on y
c'est
va.
Les souvenirs des années lycée.
C'est ça, le baggy, tout ce qu'il faut, quoi.
T'as c'est aussi ça. D'autres souvenirs de soirées qui reviennent, tu vois, pour agrémenter. Ouais.
Que des bons ou quelques mauvais? Non, que des bons.
Ah, que des bons, que des bons, on s'est amusé sans cesse.
Bon, bah, tant mieux. Merci Hugo d'être venu dans RMC Running. À bientôt. Un grand merci au maître Yodu qui a tout fait pour se rendre disponible au fin fond du Kenya. Merci Johan d'être là.
Merci à tous.
Et puis toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.